Ce matin, on va continuer cette série de messages intitulée « Saisir des victoires ». Yes ?
Amen.
Ouh ! Ouais, moi, je suis pas là pour juste donner quelques mots. J'aimerais bien qu'il y ait des victoires, vous voyez ? Hein, si on peut saisir des victoires. Et c'était une des choses que j'ai dites la dernière fois, c'est qu'on a tous besoin de victoire, et c'est vrai que cette image, elle me fait sourire. Alors, on est content, hein, quand on vit une victoire, eh ben, y a quelque chose dans notre foi qui est encouragé, qui est fortifié, on en a besoin. Et on avait commencé au fin octobre, le 31 octobre, et puis entre deux, on a eu Catherine. Mais on avait vu que des fois, cette victoire, on n'entre pas dans ce chemin de victoire parce qu'on est empêché par un sentiment d'impuissance, hein, qui nous laisse en échec, qui nous empêche de saisir les vérités divines, les vérités de Dieu, les promesses de Dieu pour nos vies. J'ai envie de commencer avec juste une petite histoire qui est arrivée cette semaine, et puis ça parle encore d'enfants, donc on est vraiment à fond dans le thème aujourd'hui. C'était en couchant mes enfants, je leur ai lu une histoire connue, une histoire biblique. Alors, pour déculpabiliser tous les parents de cette salle, je ne lis pas tous les soirs des histoires bibliques à mes enfants. Hein, ce n'est pas parce que je suis le pasteur que je lis tout le temps des histoires bibliques, d'accord ? Mais, en tout cas, ce soir-là, ce fut le cas. Et c'était l'histoire du petit garçon qui amène son pique-nique à Jésus. Hein, une histoire qu'on connaît bien, les enfants aussi la connaissent, cette histoire-là. Donc, ce pique-nique pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Et puis, alors que je leur lisais cette histoire, moi aussi, je l'ai lu des centaines de fois. D'un coup, j'ai vu un peu le regard de Jésus sur cet enfant. Je ne sais pas, ça m'a passé comme ça. Puis je me suis dit, mais ce garçon, il n'est pas venu en pensant que ce qu'il apportait était ridicule et que c'était insuffisant. Ce garçon, il est venu en offrant ce qu'il avait de tout son cœur, en pensant que ça suffirait. C'était comme la naïveté d'un enfant. Je ne sais pas, j'avais peut-être un peu loupé ça. C'était vraiment la foi et la simplicité d'un enfant. Il n'a pas calculé ou pris le temps de réfléchir. Il aurait évidemment réalisé que ça ne servait à rien de donner un pique-nique pour nourrir des milliers d'hommes. Quand même, il aurait réalisé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus, il a honoré la foi de cet enfant. Il a opéré ce miracle de multiplication. Et j'avais envie de faire le pont avec ce thème de saisir des victoires ce matin, parce que je crois qu'on a aussi besoin d'avoir cette foi simple qui croit que Dieu est tout-puissant et que dans sa grâce, il peut encore aujourd'hui opérer des miracles, qu'il peut donner des victoires sur ce que tu vas lui apporter aujourd'hui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe. Oui, j'avais quand même une image de petit pain. Hein, voilà. Je vais redire cette phrase. Jésus peut te donner la victoire sur ce que tu vas lui apporter ce matin. Amen ? Yes. C'est timide, mais il y avait quelques amen. Alors ce matin, on va parler d'un thème un peu compliqué. Celui de la dépression. Donc, j'aimerais évidemment préciser que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas psychologue, d'accord ? Donc, il ne faut pas vous attendre à une dissertation très intellectuelle. Et puis, aucun de mes propos viserait à stopper un traitement de quelqu'un, d'accord ? Je préfère le préciser. Et puis, aucun de mes propos ne viserait aussi à culpabiliser quelqu'un de dépressif, au contraire. Donc c'est au travers de la parole de Dieu qu'on va aborder cette thématique-là. La dépression, elle est difficile à comprendre pour celui qui n'a jamais passé par là. Et puis certains, malheureusement, ils vont dire « Mais ce que ces gens ont besoin, c'est d'un bon coup de pied aux fesses. Hein » Moi, je dis « Voilà, moi, j'ai déjà entendu ça. » Non, les gens ont besoin d'un coup de main. Et puis, il est peut-être utile de savoir que les probabilités de traverser un jour ou l'autre une dépression sont assez élevées. On parle de 20%. Alors bon, heureusement, on ne se laisse pas, on base pas notre vie sur des pourcentages et des probabilités, bien que parfois on s'y sent un petit peu encouragé quand même. Mais bien sûr, Christ y défie toutes les probabilités. Je voulais simplement dire que la dépression, elle nous concerne. La dépression aujourd'hui, c'est un problème de société. Alors, je ne vais pas parler du burn-out. Le burn-out, ça fait partie de la dépression. C'est vraiment lié. Aujourd'hui, ça prend plus de place, mais à la base, c'était vraiment lié à une pression dans le travail. Mais ce n'est pas un diagnostic réellement. On met burn-out quand c'est en lien à dépression, mais on peut relier ça à la dépression simplement. Donc, si on parle de dépression, je pense quand même bien de définir ce qu'on entend par dépression. La dépression est une perturbation ou un déséquilibre dans l'humeur ou l'état émotionnel d'une personne. Elle est caractérisée par une tristesse persistante, une lourdeur et une obscurité constante ou un sentiment de vide intérieur. Personne n'a besoin de dire amen. C'est juste une définition. Certains vont vivre une dépression qui peut être lente, chronique, ou certains auront des tendances ou auront des périodes de dépression. C'est important de faire la nuance, mais je pense que nous sommes beaucoup à avoir des moments comme ça où il y a des downs, et puis où on sent qu'il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur, ce genre de choses. Mais si on parle de dépression, il faut quand même le dire, c'est une maladie que l'on peut diagnostiquer. D'accord ? Ce n'est pas juste un moment où tu vas moins bien. Si vraiment tu as une dépression, c'est une maladie. Et elle peut être d'ordre physique, chimique, à quelque part, hein, parce que c'est la chimie du cerveau. Elle peut être bien sûr aussi d'ordre mental et spirituel. Donc ça n'enlève rien. Mais ça peut être diagnostiqué clairement. Et avant d'entrer dans la parole, j'aimerais encore vous faire part de quatre points de vue erronés. Le premier, prendre des médicaments démontre un manque de foi en Dieu. Faux, hein, c'est faux. D'accord ? Ceux qui avaient encore un doute, c'est peut-être bien de leur dire. La dépression est une maladie physique à laquelle on ne peut remédier qu'à l'aide de médicaments. C'est faux aussi. D'accord ? Vous comprenez l'équilibre ? Troisièmement, la dépression est une attaque spirituelle et la seule façon de s'en sortir, c'est d'être délivré des démons. Il y en a qui rigolent. Non, c'est faux. Clairement, c'est faux. Mais bien sûr qu'il y a un attrait spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Donc, on ne peut pas l'éliminer non plus. La dépression est le résultat de la culpabilité que nous ressentons face à un péché non confessé. Donc finalement, c'est à cause de ton péché que tu es dépressif. Faux. Faux. Okay ? On n'est pas les amis de Job qui allons dire à la personne dépressive, c'est ta faute, quel est ton péché ? Faux. Mais il peut y avoir certains choix de vie qui nous conduisent à ça. On le verra aussi. Donc, c'est important de se souvenir que nous sommes à la fois physiques, des êtres physiques et des êtres spirituels. Parfois, le physique doit être soigné d'une manière spécifique. Donc, on peut dire que, si on prend une analogie, hein, le cerveau, c'est l'ordinateur, et puis l'esprit, c'est le logiciel. Donc, le meilleur programme, il ne va pas fonctionner avec un ordinateur défaillant. Il faudra soigner donc le physique, il faudra soigner l'ordinateur. Et puis, à quelque part, les médicaments sont là pour ça. Mais inversement, on ne peut pas réparer le logiciel avec un tournevis. Impossible. On ne peut pas réparer ce qui est d'ordre émotionnel, affectif, spirituel, avec des médicaments. Mais les deux ne sont pas opposés. OK ? Ils peuvent être complémentaires. J'ai bien aimé cette citation de Neil Anderson dans ce livre « Libéré de la dépression » sur lequel j'ai tiré et basé plusieurs choses. C'est un fait indiscutable que les médicaments, les antidépresseurs aident les personnes déprimées à se sentir mieux. Ils les aident en effet. D'un autre côté, prendre des médicaments à chaque signe de dépression équivaut à démarrer votre voiture avec des câbles d'appoint chaque fois qu'elle ne démarre pas. Alors moi, j'aime bien cette illustration. J'ai pris un câble pour que vous vous en souveniez. Hein. Donc, imaginez un peu ça, que finalement, voilà, chaque fois, vous dites, bon, je démarre ma batterie, je dois me câbler. Imaginez si chaque matin, vous arrivez dans votre voiture, puis que vous devez commencer à câbler votre voiture. C'est énervant. Hein. Déjà, si vous n'avez pas, vous, une batterie d'appoint, vous devez demander à quelqu'un d'autre. Hein, oh là là, c'est pénible. Mais vous dites quand même qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne joue pas. Quoi. On ne peut pas démarrer tout le temps sa voiture avec la batterie d'appoint. Hein. Donc, je crois clairement qu'on a parfois besoin de ça, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher plus loin. Et puis, c'est là qu'on a besoin de se câbler, de se brancher à la source de vie, à celui qui est notre créateur, à celui qui a la victoire, à celui qui peut nous... Quelle est source de la vie, quelle est parole de vie pour nous. Donc, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc oui, les antidépresseurs soulagent, mais ils ne réparent pas notre âme. On a besoin de Dieu. Alors, je le répète, loin de moi, l'idée de minimiser nos difficultés, vos difficultés, mais je crois, je suis persuadé, je le vis, je l'expérimente. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Il est capable d'agir. Il est capable d'intervenir, autant dans notre âme que dans la chimie de notre cerveau, parce que c'est lui le créateur. Donc ce matin, j'aimerais simplement ouvrir comme la possibilité en vous que Dieu peut encore agir dans votre situation. Peut-être vous dites, ben moi ça ne me concerne pas du tout, mais vous pouvez être aussi celui qui vient ouvrir cette brèche dans la vie de la personne à vos côtés, que vous connaissez, qui passe dans un moment de dépression. Cette brèche qui dit, mais oui, Dieu peut agir. Donc j'aimerais vous encourager dans votre lutte. J'aimerais pas du tout mettre un poids sur quelqu'un. J'aimerais vous encourager ce matin. Je prie que le Saint-Esprit puisse souffler sa vie avec force et puissance. Je prie qu'une bataille puisse être gagnée ce matin. Je prie qu'une bataille soit gagnée. Il y a une guerre, mais gagnons déjà une bataille. Alors la Bible, elle n'est évidemment pas muette lorsqu'on parle de dépression. On trouve beaucoup de récits d'hommes qui ont vécu des temps de dépression. On peut penser à Moïse, Élie, Jérémie, David, Job. On a souvent pris l'exemple d'Élie. Et ce matin, je ne vais pas m'arrêter sur une personne de la Bible, un sermon bibliographique ou biographique plutôt. Je vais plutôt m'arrêter en fait sur un psaume. Je vais tirer des éléments d'un psaume, le psaume 107. Et c'est plutôt rare que je prêche sur un psaume, parce que c'est un peu particulier les psaumes, c'est un genre littéraire différent, c'est poétique, et j'ai, voilà, on doit prêcher toute la parole, et ça me fait très plaisir ce matin de tirer ces principes du psaume 107. Le psaume 107, dans ma Bible, il y a un titre, hein, c'est pas un titre qui est sur les manuscrits originels, d'accord, ça a été rajouté. Ce titre, il est dit « Appel à une louange continuelle ». Alors vous dites, bon, « Appel à une louange continuelle ». On parle de la dépression ce matin. Bon, vous vouliez quoi, que je prenne un psaume qui dit « Appel à une dépression continuelle » ou... Ben non, « Appel à une louange continuelle », alléluia, alléluia. Et c'est un psaume donc de reconnaissance et de sagesse qui d'ailleurs termine ainsi avec une parole de sagesse. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Ça, c'est la fin du psaume. Alors, vous serez quand même d'accord avec moi que pour avoir la victoire sur la dépression, il nous faut un message encourageant, non ? Bon, alors, si on parle de reconnaissance dans ce psaume, c'est qu'il y a eu des actions de la part de Dieu. C'est qu'il y a eu des victoires quelque part. Lorsqu'il y a reconnaissance, il y a aussi des victoires. Et ce psaume nous propose 4 portraits de situations différentes dans lesquelles Dieu est intervenu. Des situations, bien sûr, qui peuvent évidemment être lues à travers l'histoire du peuple d'Israël, mais elles prennent sens aussi aujourd'hui pour nous en lien à notre thème. Alors je vous invite à lire ce psaume, puis le verset 1 jusqu'au verset 32, qui s'affiche à l'écran pour ceux qui n'auraient pas leur Bible. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous de fer. Verset 17, les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole, elle les a guéris. Il a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, en faveur des hommes, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance, qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Verset 25, d'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans les réunions des anciens. Amen. Amen. Ça va, vous êtes encore là après ce psaume? Alors, un début de psaume, une belle introduction qui nous rappelle la bonté de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Cette bonté, elle est manifeste parce qu'il nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Ça, c'est l'introduction au psaume. Je trouve tellement génial de commencer avec ça. Est-ce que ce n'est pas magnifique d'entrer dans cette dimension de victoire avec cette réalité qu'il nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi? Sans ça, pas de victoire, les amis. Il nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi. On peut le dire, mais de nouveau, il faut que ça descende. Il nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi. C'est vraiment une affirmation forte, un premier pas vers la victoire. Et puis le psalmiste, il poursuit avec cette première situation qui s'étend du verset 4 au verset 9. On y trouve des verbes très forts. Peut-être que vous n'avez pas forcément fait attention lors de la lecture. Je ne sais pas si chaque fois je peux chaque fois y revenir quand même. Vous avez, comme ça, vous avez un peu sous les yeux. Ils erraient, ils souffraient, leur âme était abattue. Et puis, il y a la question de désert, de lieux arides, de faim, de soif, de détresse. Enfin, c'est quand même assez plombant, quoi. Hein. C'est, voilà. Donc, Je trouvais intéressant parce que la dépression, elle regroupe un petit peu tout ça. Alors, mon premier point, c'est le désert de la dépression. L'errance dans un désert, quand on est dans un désert, ça nous parle de solitude, d'une existence sans but. Dans un désert, il n'y a pas d'habitation. Et puis, en fait, plus on s'enfonce dans ce désert, plus on souffre. Plus on souffre du chaud, plus on souffre de la faim, de la soif, plus notre âme, elle se sent seule, plus notre âme, elle est abattue. Un désert, ce n'est pas un lieu indiqué pour errer. Un désert doit être traversé. On ne devrait pas s'y arrêter. La solitude du désert, ça renforce un état dépressif. On se sent toujours plus seul. Et plus on y entre, plus ça semble vrai. Personne ne nous comprend, on est différent des autres. Plus personne ne peut quelque chose pour nous. On n'est pas compris, on ne peut pas nous aider. Alors on s'isole de ces lieux habités, on s'isole de ces lieux de vie, puis on s'enfonce dans ce désert. Alors peut-être une première clé, ne reste pas seul avec ce que tu vis. Ne reste pas seul avec ce que tu vis. C'est peut-être facile à dire, et je le dis à ceux qui passent par là, par la dépression, mais aussi à nous, autres qui peut-être ne le vivons pas maintenant. Soyons attentifs à ça, à cette réalité-là, de la solitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le sujet de louange? Quelle est la victoire dans cette première partie? Alors ils ont crié à l'Éternel, nous dit le texte, ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a délivrés de leurs angoisses. Ça, c'est le refrain du psaume. Ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leurs angoisses. Mais après, chaque fois, il y a un ajout, il y a quelque chose de beaucoup plus précis. Il les a conduits par un chemin droit, un chemin direct. Il les a conduits dans une ville pour qu'ils y habitent. Il les a ramenés, en fait, là où il y a du monde, là où il y a la vie. Il les a ramenés à la famille, à la communauté. La solitude, le manque de but, le manque de sens à la vie sont des causes possibles qui vont contribuer à la dépression. Donc je vous encourage à vous ouvrir, je vous encourage à en parler, parler à une personne de confiance. Et évidemment ce matin, là où tu es, je t'invite vraiment à crier, à plein gosier, à crier à l'Éternel. Peut-être que ton cri, ça ne va pas être un cri très fort. Peut-être que tu vas ouvrir tes poumons, ouvrir ta bouche, puis il n'y a peut-être pas grand-chose qui va sortir. Mais avec ce que tu peux ce matin, avec le petit peu de foi que tu as, avec cette petite flamme ravivée qui laisse la possibilité à Dieu d'agir, je t'encourage à crier et à lui dire, mais je veux sortir de ce désert. Je ne veux plus accepter ce désert. Je veux en sortir. Le verset 9 nous dit, il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ce cri peut traduire, ou il devrait traduire une faim, une soif de sortir de la dépression ou de n'importe quelle situation qu'on ne veut plus tolérer dans notre vie. Il y a un cri qui monte à Dieu. J'en peux plus, je ne veux plus. J'ai besoin de toi. La seconde situation qu'on trouve dans ce psaume au verset 10 à 16, il est question ici de ténèbres, de mort, de chaînes, de prisonniers. Et la dépression est une forme de prison. On est comme enchaîné dans la dépression. On a l'impression de vivre dans la mort. Quel drôle de paradoxe. Les ténèbres sont là, c'est sombre. Il n'y a pas de perspective, on ne peut pas voir devant. Mais cette vie de prisonnier est la conséquence d'autre chose. Dans ce psaume, ce qui est la cause de cet emprisonnement, c'est la rébellion contre les paroles de Dieu. Et il peut y avoir une révolte intérieure, une colère du non-pardon qui nous ronge tellement, hein, comme on l'a vu aussi avec Catherine dernièrement. Ben, ça peut nous conduire dans la dépression. Cette révolte va en fait à l'encontre des paroles de Dieu. La dépression peut aussi être la résultante de pratiques occultes, donc contraires à Dieu, à sa parole, et qui met sur nous des liens de mort. Donc je disais, je ne suis pas en train de dire que forcément c'est parce que la personne a péché, mais il peut y avoir une résultante, il peut y avoir une conséquence, il peut y avoir qu'à un moment donné, vous ayez fait des choix, et puis aujourd'hui vous savez que ce n'était pas les bons choix, et puis il ne vous condamne pas pour ça. Mais il se peut qu'il y ait encore des racines, parce que l'occultisme vient nous enserrer, nous tenir dans des liens très forts, des liens de mort. Mais ce matin, je le répète encore, notre Dieu est victorieux. Le Dieu qui vit en toi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore une fois, le refrain de ce psaume, ils ont crié. Ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leurs angoisses. Mais plus encore, il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et j'ai bien souligné ce verbe, il les a arrachés. Il a arraché leurs liens. Arraché leurs liens. Il a mis en pièces les portes de bronze. Bon, on ne sait plus trop ce que c'est, des portes de bronze, non, des portes anti-feu, c'est tout. Hein, des portes de bronze, ça devait être pas mal lourd, pas mal épais. Il a mis en pièces les portes de bronze. Et il a brisé les verrous de fer. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'il est capable de faire ce matin, si tu es enserré, si tu es emprisonné dans ces liens de dépression, de ténèbres, il est capable de briser les verrous ce matin. La troisième situation nous parle de conduite coupable, de faute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit... C'est pas le verset 43, mais vous me pardonnez, au verset 17, il s'était rendu malheureux. Il s'était rendu malheureux. On fait tous des fautes, on fait tous des erreurs. Mais qu'est-ce qui rend malheureux ici? C'est la culpabilité. Il s'était rendu malheureux. Et la culpabilité à la dépression a un grand lien. Donc, je ne vais pas beaucoup le développer parce qu'on parlera d'avoir la victoire sur la culpabilité un prochain dimanche. Mais beaucoup de personnes qui vivent dans la dépression ont une forte sensibilité à la culpabilité. Ils ont souvent l'impression de faire faux. Ils ont peut-être parfois aussi peur de faire faux. Ou ils supportent mal de faire faux. Et cette culpabilité, elle vient donc renforcer cet état dépressif. T'as fait faux, t'es coupable. Donc c'est des mensonges qui vont encore venir s'installer, qui vont comme venir peser là où ça fait mal, en disant « mais tu vaux rien, tu ne sers à rien », etc. Et le verset 18 nous dit qu'il ne mangeait plus. Et je trouve aussi intéressant. Bien sûr, c'est peut-être, certains vont dire oh, ce n'est pas des raccourcis faciles, ce n'est peut-être pas hyper théologique, mais je trouve quand même intéressant. Combien de personnes ont des troubles alimentaires graves aujourd'hui? Ils ne s'alimentent plus tant leur estime est affectée, tant ils se sentent coupables. C'est comme si l'ennemi est en train de leur dire « mais tu n'as même pas le droit de vivre ». Et vous verrez que les troubles alimentaires, on ne les soigne pas tellement avec une sonde. On leur donne à manger. Hein. S'il faut vraiment les nourrir comme ça, on va le faire. Mais c'est plutôt l'âme qu'on vient travailler. Donc il y a une culpabilité qui peut aller jusqu'à remettre en cause le droit d'exister. Donc je ne vais pas m'allonger ce matin vu qu'on reviendra sur ce sujet. Mais si ce matin... Si tu as de la culpabilité à un lien, si la culpabilité a un lien avec ta dépression, ou si tu te sens simplement coupable d'être dans ta situation, parce que là aussi, il y a comme un poids social où on fait comme peser sur ces gens-là qu'ils ne devraient pas être comme ça. Et puis, il y a une culpabilité d'être dans une dépression. Et puis, encore pire, ben voilà, des fois, on est à l'assurance, puis on n'a plus le travail, puis on n'y arrive plus. Et puis, là encore, quand même, un coup de pied aux fesses, ces gens-là, qu'ils aillent bosser. Hein ? Mais quand on vit cette situation-là, les amis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont besoin d'un coup de main. Ils ont besoin de l'amour de frères et sœurs. Ils ont besoin de la victoire de Christ. Nous en avons besoin ensemble. Donc je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse donner la force à ceux qui en ont besoin ce matin pour dire stop à ces mensonges de culpabilité. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. On retrouve aussi dans cette situation notre refrain. Ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Et le verset 20 nous dit, il a envoyé sa parole et les a guéris. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Une victoire de plus. C'est lui qui le fait au travers de sa parole ce matin aussi. Quatrième situation, vous êtes encore là ? La quatrième situation nous parle d'une tempête. On traverse tous des trompettes, des déserts aussi. Comme on l'a vu au début, il y a des déserts, des temps qui sont secs, des temps qui sont calmes peut-être, des temps qui sont des lieux arides. Mais on passe aussi par des tempêtes. Parfois, ces tempêtes, c'est qu'il y a un stress hein, par rapport au désert où on est comme errant, on est perdu, on ne sait pas trop où on va, on est tout seul. La tempête, imaginez-vous sur un bateau qui fait comme ça quelques instants. Hein, la tempête, on est actif, on ne peut pas rester là à rêvasser, quoi. Si tu rêvasses, tu n'es plus sur le bateau. D'accord ? Donc la tempête, c'est un stress, il y a quelque chose de stress, ça bouge de tous les côtés, on est secoué, on est mouillé, il y a de l'eau qui nous arrive par-dessus, par-dessous, par-dedans, partout, on est trempé, on a froid, on perd même notre sens de l'orientation, hein, si vraiment quand ça bouge, tu ne sais plus où est le nord ou où est le sud, ça c'est certain, et puis on perd même nos habiletés, et c'est ce que le texte nous le dit, on perd nos habiletés, c'est intéressant. Ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, on ne peut plus le faire. Quand il y a une tempête, il y a probablement une dépression, au terme météorologique du terme. C'est intéressant, non ? La dépression, c'est quoi ? Hein ? C'est une basse pression, il y a des nuages noirs, il y a de la pluie, oui, mais c'est un tourbillon d'air qui s'étend sur des kilomètres, et puis c'est intéressant parce qu'il tourne dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. Moi, j'aime bien ça. Ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va vraiment pas dans le bon sens. Alors, lorsque tu es dessous, sous une dépression, que tu fais face à la tempête, bah, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux vraiment pas faire grand-chose. Tu peux, t'as beau dire, il fait beau, il fait beau, il fait beau, bah, il ne fait pas beau. Le temps sera toujours le même. Pour chasser une dépression, il faut du vent, il faut un vent fort, il faut le vent de l'esprit qui va laisser place au soleil de justice, qui va venir réchauffer nos cœurs, qui va guérir notre âme. C'est encore ce que Dieu veut faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation de crise, de tempête ? Ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses, mais pas seulement. Encore plus précisément, il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme. Il les a conduits au port désiré. Dans quel port veux-tu te rendre ? Es-tu en pleine tempête ? Encore une fois, pour la quatrième fois ce matin, je t'invite à crier à l'Éternel, avec détermination, avec force, avec foi, avec persévérance, avec audace. Il aura compassion de toi. Il aura compassion de toi. Mais laisse-lui la chance ce matin. Laisse-lui la possibilité. Laisse-lui encore comme cette petite place qui dit « J'ai tout essayé de m'en sortir. Bien sûr que j'ai crié. Qu'est-ce qu'il me dit le pasteur ? Bien sûr que j'ai crié. » Mais laisse-lui encore cette possibilité aujourd'hui. Il a compassion. Il est le Dieu de victoire. Il a autorité sur ta tempête. Moi, j'aime ça. Quand je suis dans la tempête, quand je vis une situation de détresse, j'aime me dire qu'il a l'autorité sur ma tempête. Il peut la calmer, il peut le faire. Stephen Brown, il a écrit un petit livre « Quand la corde casse ». Et puis il a dit ceci, « Jésus n'a toujours posé qu'une seule et unique condition à sa présence et à son aide, que nous exprimions notre besoin honnêtement. » Et ça, je trouve intéressant, parce que parfois, on a aussi cet orgueil, on ne veut pas le dire, on ne veut pas que ça aille mal. Justement, on a cette culpabilité, en fait. Et puis, de pouvoir reconnaître honnêtement que, ben, en fait, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, je te le dis, je l'accepte. Ben, parfois, ça amène à un changement qui peut être radical. Donc, que nous puissions exprimer, que nous puissions crier, que nous puissions lui dire honnêtement notre besoin ce matin. Je vous lis un petit témoignage d'une personne qui a passé par la dépression. Elle a dit ceci. Quand je suis en phase de dépression, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne vois aucune façon de m'en sortir. Je m'assois sur une chaise ou sur mon canapé et je ne peux rien faire de plus. Quand je suis déprimé, tout me semble insurmontable. J'ai même du mal à manger. Mon esprit et mon corps s'affaiblissent. J'ai l'impression que cela ne changera jamais. J'aimerais pour une fois pouvoir me réveiller sans appréhender la journée, car je sais qu'elle sera remplie d'inquiétude et de désespoir. Oui, je veux me réveiller et éprouver de la joie. La seule chose que je pouvais faire était de crier à Dieu. Dans ces moments où tout me semblait noir, Dieu me parlait. Il semblait toujours m'attirer à sa parole. Je trouve intéressant, parce que finalement, elle n'est pas en train de nous dire que tout a changé du jour au lendemain, et puis magnifique. Non, elle dit que dans ces moments, au plus bas de sa dépression, ce qu'elle pouvait encore faire, c'était crier à Dieu, c'était crier à l'Éternel, qui l'attirait à sa parole. Puis souvenez-vous de ce verset que nous avons lu, « Par sa parole, il les a guéris ». Il nous attire à lui, à sa présence. Et il veut le faire. Alors peut-être même que c'est la seule chose que vous pourrez faire aujourd'hui. C'est la seule chose que vous pouvez faire, mais faites-le. Criez, criez à lui. Parce qu'évidemment qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas beaucoup d'entrain, on n'a pas d'envie. Peut-être juste crier au Seigneur, secours-moi, délivre-moi. J'arrive à ma conclusion. Il me semble qu'on a pu donc voir, partager au travers de ce psaume plusieurs étapes vers une victoire, vers la dépression. Donc je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. C'est la parole de Dieu. C'est la foi en un Dieu de victoire que je veux proclamer ce matin. C'est cette possibilité de Dieu encore et encore aujourd'hui qui peut vous donner la victoire. J'aimerais juste rappeler ces 5 étapes simple, que je résume ainsi. Traverser le désert au lieu d'y errer et de s'isoler. Ne pas vivre emprisonné et coupé de ce qui peut entretenir un esprit rebelle à Dieu. Ne pas croire l'ennemi qui cherche à nous culpabiliser au travers de nos erreurs. Ne pas se laisser déstabiliser par la tempête qui me fait perdre mes repères et habiletés, car Jésus a l'autorité sur les éléments et désire me conduire à bon port. Et puis cinquièmement, par-dessus tout, crier à l'Éternel avec conviction, foi, audace et persévérance. Si les musiciens peuvent revenir pour la fin du culte, j'aimerais encore vous inviter à une dernière démarche. J'aimerais vous inviter à vous lever ensemble et puis j'aimerais qu'on puisse proclamer la parole. Alors qu'on crie à lui, il nous attire à sa parole. alors que sa parole est source de guérison, alors qu'il est le Dieu de victoire. J'aimerais simplement que projeter, je vais mettre ces quelques versets du psaume de Romains 8, et puis j'aimerais vous inviter à que nous les lisions ensemble d'une voix forte. Ça va ? Et puis toi, tu peux commencer à jouer quand tu veux, Maurizio. Très bien. Que dirons-nous de plus ? Vous lisez avec moi en même temps, d'accord ? Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Père, merci pour qui tu es. Merci parce que ce matin encore, nous célébrons un Dieu de victoire. Merci parce que tu es le victorieux dans notre, en nous, Seigneur, le Dieu de victoire. Il habite en nous, Seigneur. Quel cadeau. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as rachetés de l'ennemi. Seigneur, tu nous as rachetés de la mort. Alors, Seigneur, nous pouvons ce matin déclarer cette victoire ensemble. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, quelle grâce! Seigneur Jésus, je prie que tu interviennes ce matin dans la vie de celui ou celle qui passe par des moments de dépression, de tempête, de désert. Seigneur, je prie qu'il y ait cette action puissante de ta parole dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie qu'ils puissent ce matin oser crier à toi. Seigneur, je prie qu'ils puissent oser croire même, croire que tu es ce Dieu de l'impossible. Seigneur Jésus, on veut croire que les situations qui ont toujours été les mêmes, elles ne seront pas toujours les mêmes demain. Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'on veut laisser cette place au miracle. C'est pour ça qu'on veut laisser cette place à toi qui es ce Dieu de victoire. Seigneur, on ne peut pas savoir, tu es le maître des temps, il y a des saisons, on le comprend, Seigneur. Mais Seigneur, peut-être que ce matin, pour une personne, c'est le temps de la victoire sur la dépression. Alors Seigneur, que cette personne soit là dans la salle, soit au travers de chez elle, derrière son écran, Seigneur, nous prions ensemble, nous nous unissons dans la prière ce matin. Et nous déclarons que tu es le Dieu de victoire qui intervient, qui brise les verrous de fer, Seigneur Jésus, qui vient redonner à manger à celui qui a faim, qui vient abreuver celui qui a assoiffé. Seigneur, tu es celui qui nous conduit au port désiré, qui permet que la tempête retrouve son calme, que la mer retrouve son calme. Quel cadeau, Jésus, tu le fais ce matin dans la vie de celles et ceux qui souffrent et qui crient à toi de tout leur cœur. Merci, Jésus, pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci parce que ton amour, il ne change pas, qu'on soit dans une phase de dépression ou dans la joie exubérante. Seigneur, ton amour pour nous ne change pas, mais tu étends ta grâce et ta compassion ce matin. Que ton nom soit béni et honoré. Amen. Amen. Chantons ensemble.
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père.
tu es.